petite présentation juste pour dire que je travaille donc au Centre d'études supérieures de la Renaissance et plus particulièrement dans le programme des bibliothèques virtuelles humanistes dirigé par Marius Demaudet, où mon travail consiste en fait à produire des éditions en XMLT8 de nos textes. Donc forcément, ça implique en amont une phase de transcription de ces mêmes textes. Tout ça pour dire que, en fait, dans ma présentation, je vais vraiment faire un lien presque constant entre transcription et le but qui va ensuite, c'est-à-dire l'édition. Parce que, à mon sens, ces textes anciens, si on les transcrit avec tant de minutie, c'est dans une perspective de transmission de l'information. Ce que je vais essayer de voir ensuite, après une petite intro autour de ces notions, ce sera les enjeux autour du document ancien et les différents niveaux de transcription qu'on peut proposer pour ces documents-là. Ensuite, présenter les normes qu'on applique pour notre corpus de textes transcrits, donc qui s'appelle Épistémon. Et enfin, parler des projets qui sont en lien pour automatiser ces processus de transcription. Alors, transcrire, c'est pas exactement la même chose qu'éditer, c'est donc une étape du processus. Et quand on transcrit un texte ancien avec vraiment ses spécificités, on essaye de rester au plus proche de l'original afin de produire, en fait, enfin de faire un pivot à une multitude d'éditions, c'est-à-dire qu'on aura une transcription et plusieurs éditions possibles qui peuvent en découler. Rester fidèle à l'original, j'ai mis relatif parce que c'est, on verra que c'est jamais totalement possible d'être totalement fidèle à cet original, et c'est pour ça que des normes de transcription entrent en jeu. C'est à la fois pour la cohérence d'un projet, on pose des normes pour, voilà, dès qu'on transcrit plus d'un texte, on est obligé, en fait, de suivre certaines normes pour essayer d'être cohérent au sein du projet, et puis aussi pour que le lecteur comprenne un peu ce qu'on lui présente au bout de la chaîne d'édition. L'édition, quant à elle, en miroir, en fait, c'est l'étape finale, et ça éclairera le sens du texte, permettra aussi sa mise en forme, ce qui n'est pas du tout le rôle de la transcription. Alors, transcrire dans ces conditions-là, c'est une sorte de prise de risque, même si c'est un mot, un terme un petit peu fort. Mais tout ça pour dire que c'est jamais un acte totalement anodin, parce que dès lors qu'on couche un texte par l'intermédiaire d'un clavier et un texte qui va être interprété par une machine, en fait, on donne une interprétation du texte source. Alors, un petit exemple. Là, sur la gauche, en fait, j'ai le facsimilé d'une page de l'histoire tragique écrite par Martial Deschamps en 1576. Et ensuite, en face, j'ai deux transcriptions de la même partie du texte. J'ai essayé, alors, je ne sais pas si les couleurs se voient vraiment, mais de mettre en lumière un peu les choix de transcription entre ces deux versions. On a une première transcription donc en haut qui se veut assez proche de l'original, mais on voit que certains choix ont déjà été opérés. C'est-à-dire que vous voyez la disparition par exemple des S longs, que la lettrine est transcrite simplement par un C majuscule, perd donc cette information, que ce que je vais appeler donc les brévigraphes, ce sont les tildes sur les lettres, donc les accents qui montre qu'il y a une abréviation en fait dans le texte ont été transcrits d'une certaine manière, donc on voit que c'est plus un tilde mais c'est un macron, un accent plat au-dessus des lettres, et que on n'a pas tenu compte des je vais y arriver des ligatures, c'est-à-dire on voit que certaines lettres ici c'était un seul caractère, donc les deux S sont collés, c'est un caractère chez l'imprimant. Nous, on transcrit par deux S, donc deux caractères. En regard, j'ai un autre niveau de transcription qui va être plus régularisé. On voit qu'il y a vraiment des parties prises, c'est-à-dire que là, J'ai une distinction entre les U et les V que l'original n'a pas. C'est-à-dire que U peut symboliser un V, V peut symboliser un U, que les abréviations ont été développées. Tout à l'heure, on avait science avec le UTD et là, on a science écrit en un seul mot. Voilà, et ça s'arrête là pour la régularisation. On n'a quand même pas un niveau de modernisation. Et là, se pose vraiment une question, est-ce que sur ces trois exemples, j'ai le même texte? Alors, à mon sens, pas totalement. Et c'est bien pour ça qu'il faut, quand on établit des normes, savoir quel est le but de la transcription et quel est le but derrière de l'édition. Pourquoi essayer de rester au plus proche de l'original lorsqu'on transcrit, plutôt que de régulariser immédiatement ce qui peut l'être? Eh bien, c'est parce que pour éviter la perte d'informations. Tout simplement. Ce sera toujours beaucoup plus difficile, j'y reviendrai, de réinsérer une information qu'on a perdue plutôt que de la nettoyer si elle est déjà là au niveau transcription. Alors, transcrire au plus proche de l'original, ça permet, alors non seulement, comme je le disais tout à l'heure, de produire des éditions, certes, mais dans un travail scientifique, ça permet aussi de comprendre sur ces documents anciens quelle est l'histoire du livre autour. Comment justement on imprimait tel livre à l'époque, comment est-ce qu'on organisait une pensée, comment est-ce qu'on allait la transmettre aux lecteurs de l'époque. Ça permet aussi d'étudier la langue, alors la langue bien sûr écrite, donc alors je dirais pas une langue normée, parce que au texte, pour les textes de la Renaissance, justement, la norme fluctue beaucoup, donc il n'y a pas de norme, mais il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement. Et donc, en fait, une transcription qui sera fidèle à la langue de l'époque permettra ensuite de générer des index de cette langue et de faire des études diachroniques de la langue. Enfin, on entend souvent quand les chercheurs se mettent à transcrire leurs textes dans le cadre d'une étude, que ça permet de mieux comprendre l'objet sur lequel on réfléchit, plutôt que simplement le lire. Transcrire, ça fait vraiment comprendre comment un auteur a pu composer son texte, comment après l'imprimeur a pu le mettre en page et pourquoi telle ou telle chose vienne prendre telle ou telle place. Alors, Georges en a un peu parlé précédemment, donc on a à des méthodes de transcription qui peuvent être différentes. C'est pas forcément s'opposer. On peut avoir une transcription à la fois manuelle et un peu automatique. On peut avoir l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Donc, je vais essayer de voir un peu pour ces textes qui m'intéressent, donc les textes de la Renaissance, voir quelle méthode peut être plus ou moins recommandée. La piste de l'automatisation d'abord. Automatiser, c'est vrai que, enfin, utiliser un OCR, ça paraît vraiment idéal quand on transcrit, parce que quand on récupère sa transcription directement après analyse, on est très content. Pour les textes après 1800, qui ont des polices très normées, une langue normée aussi, c'est assez idéal. On a de bons résultats. Là, j'ai un extrait du tiers-livre de Google Books. Avec le texte qui a été OCRisé automatiquement derrière. Et j'ai, oui.
Bon résultat, ça veut dire qu'on peut se passer de...
Alors là, j'ai rien retouché. Et à la lecture, et le Google Books ne retouche pas les OCR automatiques qui sont derrière le texte. Donc oui, bon résultat, ça veut dire peu de retouches. Disons qu'une relecture rapide permet en fait d'enlever toutes les coquilles qui peuvent avoir été insérées par l'OCR. Alors si je reviens un peu sur la méthode d'OCRisation, parce que je ne sais pas si vous savez ce qui se passe un peu derrière, il faut bien comprendre en fait le logiciel il fonctionne par étapes. Il va reconnaître des chaînes de caractères, des espaces, puis des caractères plus en groupe, puis après il va segmenter caractère par caractère. Ensuite, cette segmentation va être comparé à une bibliothèque de formes que le logiciel a en mémoire. Et dès qu'il va reconnaître la forme lors de la comparaison, il va insérer le caractère en question. Et certains logiciels d'OCR, en fait, ont en plus des dictionnaires qui permettent, donc c'est pour ça qu'on peut choisir la langue qu'on est en train d'analyser, et qui vont permettre en fait d'éviter toutes les erreurs en comparant aussi à ce dictionnaire. Avant 1800, bah, c'est un peu dramatique, c'est-à-dire que, alors là, bon, j'ai pas été gentille parce que j'ai choisi une numérisation qui en plus n'était pas terrible, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tâches, donc ça, pour un OCR, c'est horrible pour la segmentation, il ne sait plus où sont les caractères et quelles sont les tâches, mais on voit que les résultats sont beaucoup moins probants. On a des résultats très variables. J'attire votre attention sur le fait, par exemple, que les SLON ne sont pas reconnus du tout et sont transcrits comme des F. Simplement parce que là, il y a une forme emmagasinée par l'OCR qui correspond, c'est-à-dire que ce caractère-là, en effet, ressemble à un F. Ce n'est pas un F, mais ça ressemble à un F. Et l'OCR en question ben, ne sait pas que le caractère SLON existe. Je vois aussi dans ce résultat que bah, la plupart... alors, il y a beaucoup de problèmes de segmentation, c'est-à-dire que vu que les espaces dans les textes anciens peuvent beaucoup fluctuer, parfois, on a beaucoup de mots collés. Ici, on voit particulièrement, il ne sait plus où il en est, parce que justement, bah, j'ai quelque chose qui est très collé. Voilà. Il a des problèmes pour des caractères qui vont être pas totalement ancré, un U, par exemple, souvent la boucle du U est pas totalement bien imprimée, donc là il voit deux I, etc. Donc on a ce genre d'erreur. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de dictionnaire des formes graphiques utilisées à l'époque de la Renaissance. Donc forcément, l'OCR ne peut pas être performant sur ce genre de texte. Donc, on se tourne un peu vers la solution qui reste, et la solution à l'ancienne, on va dire, alors plus ou moins ancienne, parce que quand même on utilise un ordinateur, la transcription manuelle. Alors la transcription manuelle, plus économique en temps, parce qu'on pourrait croire, en fait, que corriger le résultat de l'OCR précédent pourrait faire gagner du temps. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'est pas vraiment le cas, qu'on perd plus de temps à corriger un OCR très fautif, enfin un résultat d'OCR très fautif, que de transcrire directement la source. Donc c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que ces textes anciens sont transcrits par des transcripteurs, alors ça a été un petit peu évoqué dans l'introduction, parfois non francophones, parce qu'on s'aperçoit qu'un sur des textes anciens, donc en langue française, un transcripteur francophone va avoir tendance à régulariser la langue sans s'en apercevoir, parce que forcément, quand il y a une coquille ou quand il y a des formes qui sont plus utilisées aujourd'hui, bah, il va transcrire la forme actuelle. Et donc, les transcripteurs non francophones qui vont transcrire donc, caractère par caractère vont faire des transcriptions de meilleure qualité. On peut aussi utiliser la double lecture, c'est-à-dire transcrire deux fois le même texte et ensuite faire une comparaison et comme ça récupérer un texte sans aucune faute de transcription. Presque sans aucune faute de transcription. Nous, on a des textes où on en retrouve encore actuellement. C'est très difficile d'avoir quelque chose de parfait. Alors, les spécificités de ces documents dits anciens. Donc, je le disais un peu plus tôt, on a cette cruelle absence de dictionnaire sur les formes graphiques de l'époque, donc qui permettrait en fait de faire des comparaisons automatiques avec ces formes. On verra un peu en fin de la présentation quelles sont les pistes qu'on étudie pour essayer d'améliorer cela. En plus, bon, bah, faire de tels dictionnaires, c'est très compliqué parce que les formes, comme je vous le disais, sont très variées. Varient non seulement en fonction des époques, donc de la Renaissance tardive ou des premiers imprimés, là, on va avoir une variation de la langue, mais on a aussi une variation d'un auteur à l'autre, qui va avoir sa propre orthographe, entre guillemets. la fameuse apparition de ce terme qui faisait peur à un de mes collègues tout à l'heure, le terme ramiste. Donc les lettres ramistes qui sont très l'équation courante à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre I, J, U et V. Ce qui pose problème pour la reconnaissance automatique, justement. On a une abondance de caractères qu'on dit, nous, spéciaux aujourd'hui, mais qui sont tout à fait normaux et très utilisés à l'époque. Et là, on va avoir non seulement donc, les problèmes dus à la reconnaissance automatique, mais on a des problèmes aussi directement de saisie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va saisir ces caractères? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils manquent? Est-ce qu'on doit les transcrire? Ou est-ce qu'on doit les laisser de côté en disant tant pis, on aura une petite perte d'informations? Voilà, donc je parlais des brévigraphes. Il y a aussi abondance de ligatures. Donc à savoir, voilà, est-ce qu'on doit pousser la transcription jusqu'à garder les ligatures? On a aussi beaucoup d'éléments ornementaux, dont les lettrines, qui sont quand même à la fois une lettre et à la fois un élément ornemental. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce le travail de la transcription ou est-ce que c'est plutôt le travail d'édition de typer ce genre d'objet? Et enfin, bon, les spécificités de ces documents anciens, c'est une mise en page à la fois esthétique mais très variable, qui est, on a aujourd'hui dans nos livres imprimés, une norme, c'est-à-dire vraiment un cadre très précis, rien que sur une page de titre, même si on, d'ailleurs, si on ne connaît pas la langue, enfin on ne lit pas la langue d'un ouvrage imprimé aujourd'hui, on sait à peu près où va être l'auteur, où va être le titre principal, ce sont des éléments qui graphiquement sont identifiés. À la Renaissance, il y a aussi une identification, mais elle est différente d'aujourd'hui. Donc, comment rendre ça et est-ce le devoir de la transcription? D'ailleurs, je reviens tout de suite, avec des exemples concrets, sur les problèmes de segmentation. La segmentation en lettres et en mots, on voit que c'est assez variable. Alors ici, l'auteur, en fait, pour l'auteur, l'imprimeur n'avait pas la ligature AE pour rendre la diphtongue. Donc il a fait un jeu d'espacement. C'est-à-dire que les capitales seules, il les a espacées un peu plus, et puis il a rapproché le A et le E pour rendre cette diphtongue. Alors c'est bien d'ailleurs, on comprend d'ailleurs à la lecture, mais qu'est-ce qu'on en fait au niveau de la transcription? Est-ce qu'on s'amuse à rajouter des espaces entre les lettres pour aussi rendre cette spécificité? Est-ce qu'on utilise nous-mêmes le caractère ligaturé ou est-ce qu'on s'en fiche et qu'on laisse de côté et simplement on transcrit lettre par lettre? Je n'ai pas de solution idéale. En fait, parce que petit à petit, je vais introduire les normes utilisées aux bibliothèques virtuelles humanistes, mais je tiens à dire que ce ne sont pas des normes universelles, ça n'a pas du tout ce but-là. Ce sont des normes qui ont été retenues pour un projet bien spécifique, et donc voilà, bon, d'ailleurs, qui évoluent sans cesse, parce qu'elles ont leurs failles. Un autre petit exemple pour ces espaces interlettrés, voilà, pour souvent donc, dans les titres des ouvrages. Alors, je disais tout à l'heure, voilà, quel choix. Alors, un des premiers choix, ça va être quel niveau de finesse on va essayer d'atteindre dans cette transcription. Alors, j'en ai défini quatre. Les niveaux, c'est vrai que c'est un peu la prise de tête d'un projet à l'autre, parce que chacun va avoir sa définition du niveau de transcription. Donc, je prie de m'excuser si facsimilaire pour vous, c'est pas ça. J'ai essayé de rester assez large au niveau de la définition, donc on va dire qu'on a un niveau facsimilaire qui va s'attacher vraiment à reproduire l'original, c'est-à-dire reproduire ces espaces interlettrés, reproduire les S-noms, reproduire les ligatures, insérer un maximum de choses pour pas faire comme un facsimilé mais numérique. Un niveau quasi diplomatique, celui qu'on a tendance à utiliser pour nos transcriptions, c'est-à-dire qu'on reproduit l'original, mais on laisse de côté certaines graphies. Par exemple, le S long devient un S court systématiquement, tout simplement parce qu'il n'est pas disponible facilement au clavier et qu'on n'a pas envie de faire perdre du temps au transcripteur à aller chercher en permanence dans une table de caractères. Puis là, on va en utiliser certains bien définis, par exemple pour les brévigraphes, mais certains autres vont être laissés de côté. Le niveau régularisé, alors là, c'est que la graphie des lettres n'est plus respectée, mais par contre, la forme des mots, oui. Si on a « vostre » dans le texte, il va être distingué de « votre », sans « s », mais par contre, les lettres ramistes, elles, ne sont plus respectées, c'est-à-dire que « vostre » écrit avec un « u » ou « vostre » écrit avec un « v » va être transcrit toujours avec un « v » pour coller aux usages modernes. Et enfin, les transcriptions modernisées, ça existe aussi, c'est-à-dire qu'on modernise directement tout ce qu'on transcrit et on obtient donc une transcription avec des formes graphiques selon les graphies actuelles. Donc, vostre devient votre. Un exemple de transcription facsimilaire, donc faite par Alain Legros, un chercheur qui travaille avec nous sur de nombreux projets. Donc là, on voit que les brévigraphes tildés sont présents. On a aussi un respect, alors DS non, je vais y revenir, on a un respect, en fait, c'est aussi une écriture manuscrite, donc on va voir le D rond de Montaigne qui a été voilà, symbolisé par ce petit D ici, etc. Et tout un tas de petits signes qui sont donc ayant pour but de reproduire l'original. Là, on a un problème qui va se poser, c'est-à-dire que pour plus de facilité, ici, on voit que le S long, enfin, je ne sais pas si ça se voit, mais je vous le dis, c'est-à-dire que le S long, ce qui a été utilisé, c'est le caractère intégral en mathématiques. Alors là, on a vraiment un problème du côté informatique, c'est-à-dire qu'un caractère, même si visuellement ressemble à ce qu'on voit sur la page, a une valeur. Et donc là, l'ordinateur, lui, par contre, va analyser eh bien le caractère intégral, et pas du tout ni S long, ni S tout court. Donc, c'est-à-dire que là, on a vraiment une transcription graphique, et qui a un usage, c'est-à-dire que là, l'usage, le but, c'était l'impression, et donc pas l'analyse par les outils utilisés, les outils de fouille de texte. Ça posait pas problème. Un niveau, donc, un peu en dessous, le niveau quasi-diplomatique, si on voit bien, mais on a donc les lettres ramistes qui sont bien là, c'est-à-dire qu'on va voir, on va bien transcrire quand il y a un U et quand il y a un V, par exemple, ou I ou J, là, jugement qui est écrit avec un I a été transcrit jugement. Pareil pour pouvoir ici avec deux U. Les éperlettes ont été laissées telles qu'elles et pas développées en ET. On a un respect du lignage et des césures. Et on a aussi les marques d'abréviation, donc les brévigraphes. Et vous voyez là au passage que les coquilles ont été laissées dans le texte, donc transcrites, même si là elles sont signalées dans l'édition, mais pas au niveau de la transcription, j'y reviendrai. Enfin, alors je ne montrerai pas de niveau modernisé, parce que vous vous doutez de ce que c'est, mais je vais m'arrêter au niveau régularisé. Donc on a une régularisation de la langue, c'est-à-dire que là, par exemple, j'avais une abréviation qui a été transcrite directement, développée, QE. J'ai une distinction donc, entre les U et les V, donc là j'ai une régularisation. Utopien, qui était avec un V majuscule, devient un U majuscule. J'ai toujours, par contre, tout ça pour dire qu'on régularise un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire j'ai toujours le respect des césures et du lignage, et des graphies quand même de l'époque, si on laisse de côté les abréviations et les lettres ramistes. Alors, tout ça, bon, pour dire que bon, nous, dans le cadre du projet, il a fallu donc privilégier un niveau de transcription, donc le niveau quasi-diplomatique, comme je le disais. Et à mon sens, c'est plus logique de transcrire au plus proche, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il sera plus simple informatiquement doté de l'information, de transformer en fait la transcription en ce que l'on souhaite, de la régulariser au maximum, par exemple, dans le cadre d'une édition donnée, plutôt que de réinjecter des formes anciennes sur les mots. Parce que forcément, vu qu'il y a une variation et qu'il n'y a absolument pas de norme, on ne peut pas revenir en arrière une fois que la transcription a été normalisée. Donc, l'idée, c'est vraiment de conserver un maximum d'informations de l'original. Quasi diplomatique et pas facsimilaire, alors à la fois pour les problèmes que je soulevais de perte de temps du transcripteur, mais aussi parce qu'on souhaite quand même que le texte soit agréable à l'œil, lisible par un lecteur moderne qui sera vraiment gêné par exemple par les S longs. Bon, certes, c'est une habitude, mais c'est vrai que quand on commence à avoir du mal à déchiffrer deux mots, ça quand même ça décourage de lire la suite. Voilà. Donc j'en ai fini avec les niveaux. Pour comprendre un peu comment nous on s'organise sur le corpus donc épistémon de texte transcrit, c'est-à-dire que d'un côté on a la transcription du texte vers l'édition et puis divers traitements qui sont appliqués à ce texte. Donc la transcription quasi diplomatique, manuelle, par un transcripteur soit de l'équipe, soit extérieur. On a, pour produire l'édition, une couche, alors pour produire l'édition et aussi pour analyse par les outils de fouille du texte, un encodage en XML-TUI, afin de reproduire certaines choses qui sont plus graphiques, de réinjecter voilà, cette couche de régularisation sans toucher la transcription de base. Et enfin, tout ça ayant pour but d'afficher ensuite le texte en ligne au format HTML. Côté traitement du texte transcrit, une fois la transcription obtenue, donc manuellement, on a des codages en fait semi-automatiques ou automatiques visant à insérer un minimum de balises plutôt que de le faire à la main, c'est-à-dire par exemple les débuts de ligne qui vont avoir une balise pour montrer que c'est un début de ligne, tout ça c'est fait automatiquement. Et je vous parlais tout à l'heure de la régularisation des lettres ramistes et la désabréviation des mots, tout ça va être fait automatiquement. Je vous montrerai comment. Enfin, en fait, avoir ces états de texte, non pas concurrents, mais voilà, un peu cette édition, enfin, ce texte qui contient tout en un, permet de faire des requêtes assez précises au niveau des logiciels de fouille du texte, ou de proposer à ces logiciels, justement, soit une version du texte, soit l'autre. J'en arrive donc aux normes, je l'annonçais. Des normes un peu génériques d'abord. En fait, pourquoi, voilà, par exemple, le respect du lignage systématique et le respect des sauts de page, et même de tout ce qui se balade un peu sur la page, c'est encore une fois parce que le programme a aussi pour but de faire de l'histoire du livre, et que ces éditions produites servent aussi à illustrer cette histoire. Les sauts de page et sauts de ligne seront, je l'évoquais, automatiquement remplacés. En fait, ce qu'on a dans Word, c'est un codage pour faire ces sauts de ligne et ces sauts de page. On voit que l'utilisateur qui utilise Word ne le voit pas, mais nous, on le transforme. Ensuite, en balise. Par contre, les espacements, par exemple, entre deux paragraphes peuvent être espacés d'une ou plusieurs lignes. Alors, c'est très variable dans les éditions. Le transcripteur ne va pas s'en occuper. Tout ça, c'est laissé en fait à l'éditeur, à celui qui va encoder en XML-TUI. Donc, on n'essaye pas de reproduire ces espaces avec des retours chariots dans le document. Le transcripteur n'ajoute pas de couche de stylage, car encore une fois, les styles gras, italiques, etc. seront appliqués ensuite via le codage. La transcription doit être le plus pure possible, entre guillemets. On ne reproduit pas les espaces interlettrés, tout simplement parce qu'on veut absolument conserver l'unité mot. C'est important pour les outils de fouille de texte ensuite, de pouvoir avoir cette structure-là. Enfin, alors on a un choix qui peut interpeller, c'est la ponctuation de style international, c'est-à-dire qu'on évite les espaces que nous on met en langue française, c'est-à-dire les espaces avant les deux points ou avant le point virgule, ou avant point d'interrogation, point d'exclamation. Nous, on colle tout au mot, donc comme à l'anglaise. Pourquoi exactement? C'est parce que, comme les graphies de l'époque, la ponctuation fluctue beaucoup, et surtout les espaces avant, après ponctuation. Il a bien fallu s'arrêter à un choix et proposer en fait cette norme internationale semblait la plus facile en fait et la plus agréable pour produire la transcription, plutôt que d'essayer absolument de reproduire. Alors parce que là, on voit que parfois la ponctuation va être collée au mot, parfois non. Donc nous, on a préféré s'arrêter à une norme. En ce qui concerne donc le contenu de la page et donc les vestiges de l'histoire de l'imprimé ancien. Bien sûr, on conserve tout ce qui est numérotation et donc pagination ou foliotation. Différence, hein, pagination, ça va être un numéro sur chaque page. Et la foliotation va avoir une numérotation toutes les deux pages. Donc on va avoir simplement en fait les rectos qui vont être numérotés. Alors ce qui se passe dans le cas d'une pagination d'origine, bien sûr on la conserve. Simplement parce que c'est un repère à la fois pour le lecteur de l'époque et pour le lecteur actuel aussi. C'est bien de savoir à quelle page on est. Rien que pour citer une référence, c'est très agréable. C'est aussi pour cela que dès la transcription, on a tendance aussi à restituer. Alors bien sûr, on marque cette restitution par des crochets, qui est une norme de restitution assez admise. Cette pagination, si elle n'existe pas, c'est-à-dire qu'on va fictivement paginer l'ouvrage, tout simplement parce que pour nos étapes de relecture, pour encore une fois, ça sert de repère, pour savoir à peu près où on est dans le texte, c'est important. Pareil, quand on a seulement une foliotation, donc simplement les rectos qui sont numérotés, nous, on restituera une foliotation avec les versos pour essayer en fait d'avoir une numérotation suivie, et donc une navigation dans l'ouvrage. Mais donc, il n'y a pas que la pagination ou la foliotation à l'époque, comme repère visuel. Il y a aussi ce qu'on appelle les réclames et les signatures. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le fonctionnement du livre ancien. Les signatures permettaient de numéroter les cahiers qui constituaient le livre, et ça permettait ensuite, au niveau de l'assemblage du livre, de l'assembler dans le bon ordre. Voilà. Donc on a en fait une lettre suivie de chiffres en bas à droite de certains cahiers. On a aussi à cet effet des réclames, c'est-à-dire qu'on va avoir un mot en bas à droite d'une page qui sera le premier mot de la page suivante. C'est aussi un repère pour voir comment les cahiers s'articulent. Tout ça, on le conserve. Donc on le saisit, on ne le nettoie pas. On estime que c'est important dans le cadre du programme pour l'étude justement de composition du livre. Tout comme on conserve donc les titres courants, qui se répète, vous savez, en tête de page pour savoir, par exemple, le titre du chapitre en cours. Alors, maintenant, le contenu et donc le texte en lui-même. Bon, bah là, j'y reviens pas. Donc, les S longs transcrits en S courts pour plus de facilité. Les ligatures, alors, ont été systématiquement désagglutinées. Encore une fois, c'était aussi, en fait, pour permettre à l'utilisateur ensuite de chercher des termes qui avaient été transcrits en tapant directement au clavier, donc, parce qu'un utilisateur ne va pas taper un caractère ligaturé. Alors après vous me direz, normalement c'est aussi à l'informatique de s'en charger, c'est-à-dire c'est à l'informatique de savoir que si je tape AE, ça peut aussi vouloir dire caractère ligaturé AE. Bon bah on a les outils qu'on a, et le nôtre actuellement ne fait pas exactement ça, donc on a préféré, et puis rien que pour nous, pour ensuite fouiller notre texte, même quand il est totalement brut et pas en ligne, c'est quand même très utile de pouvoir taper un mot directement plutôt que d'essayer toutes les variantes. Alors est-ce qu'il va y avoir une ligature ou pas, etc. Les majuscules sont tout le temps saisies, C'est-à-dire que si on a des majuscules au nom commun, on les conserve, même si ça... Alors pour nous, ça ne fait pas sens aujourd'hui, mais on estime que ça peut. Donc, on les garde. Pareil, les noms propres qui ne vont pas avoir de majuscules, a contrario, on n'en rajoute pas. Voilà. Les capitales donc ornées, les lettrines, vont être remplacées par des majuscules ordinaires au niveau transcription. C'est ensuite, lors de l'encodage, qu'on va après marquer ces lettres majuscules pour dire qu'il s'agit d'une lettrine. Alors, on estime que ce n'est pas au niveau de la transcription que ça doit se saisir. Mes fameuses lettres ramistes et mes brévigraphes. Les mots qui font peur. Alors, dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible parce qu'on a un état assez ancien aussi dans ce corpus, donc parfois les transcriptions étaient régularisées dans le sens où on n'a pas respecté la distinction IJUB. Mais dans la mesure du possible, aujourd'hui on souhaite la conserver, tout simplement pour ce fameux double affichage dont je vais enfin vous montrer un exemple ensuite. Mais parce que ça permet aussi d'éviter ce que le transcripteur, donc le transcripteur francophone cette fois-ci, fasse de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il commence à interpréter le mot, non, on veut transcrire au maximum du possible tel quel. Donc là, j'ai quelques exemples de termes où donc merveilleux sans V, enfin avec un U, jour qui commence par avec un I, tout ça va être transcrit tel quel. Pas de désabréviation ni de détiltage. Donc, on transcrit avec le caractère surmonté d'un accent plat, tout simplement. Alors ça, c'est un héritage historique, parce que les premiers textes n'affichaient pas les caractères tildés, parce que toutes les lettres tildées n'existaient pas dans les polices utilisées. Donc, on a choisi les lettres à Macron qui passaient beaucoup mieux en ligne. Voilà. Donc on est resté avec ces lettres à tilde plat. Donc par exemple, là on a honneur avec son tilde d'origine qui sera transcrit avec un Macron. Enfin, ce double affichage. Conserver en fait donc ces lettres ramistes et ces brévigraphes, c'est permettre à l'utilisateur de choisir l'affichage qu'il va vouloir pour sa lecture ou pour son analyse. Donc grâce à une seule et même transcription, on obtient après encodage automatique de ces termes-là deux éditions, deux états de texte. Et ensuite, on peut afficher soit l'un des états, soit l'autre. Ici, j'avais un exemple d'injustice écrit avec un i. Et je peux avoir donc soit la version originale en ligne du mot tel qu'il a été transcrit, ou le mot avec son J, tout ça étant dynamique, et le mot transcrit avec le J n'ayant jamais été transcrit par le transcripteur d'origine. C'est bien en fait l'encodage et une automatisation qui permet de récupérer cette forme-là. Les fameux caractères dits spéciaux mais normaux pour un lecteur de la Renaissance. Alors là, ça pose beaucoup plus de problèmes au niveau transcription. D'ailleurs, là-dessus, nos normes sont assez fluctuantes pour l'instant. Et on essaye donc, de recenser un peu les entités Unicode qui vont. Donc Unicode est un consortium qui permet en fait de mettre un code à la place de ces petits caractères pour qu'ils s'affichent ensuite correctement. Sauf que après se posent les problèmes d'affichage parce que ces caractères Unicode ne vont pas être interprétés par toutes les polices. Bon. Mais ça, ce sera du côté édition que ce sera géré. On va demander au transcripteur, alors cette fois-ci un transcripteur expert qui comprend, enfin qui reconnaît en fait ces caractères, souvent qui sont des caractères d'abréviation, de remplacer, d'aller voir en fait dans les tables Unicode pour voir à quoi ça correspond. Parce que le plus simple ici, ce qu'on se dit quand on voit donc le petit us qui latin qui va être qui est l'abréviation ici, us, c'est d'aller transcrire en exposant un petit 9. En effet, c'est ce qu'on voit. On a l'impression qu'il y a un petit 9. Sauf que c'est pas ça, et que, encore une fois, pour l'interprétation de la chaîne de caractères, mettre un chiffre qui n'existe pas, ça pose vraiment problème. Donc, tout ce qui est transcription purement graphique est abandonné, et on essaye, donc si le caractère existe dans Unicode, de mettre l'entité Unicode correspondante, et si il n'y a pas de caractère correspondant, ce qui existe beaucoup pour les textes de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas de caractère Unicode correspondant, soit, alors, allez, en fait, non, on demande au transcripteur de marquer l'endroit où il a rencontré le caractère, par un signe distinctif, et nous, ensuite, on va revenir voir si, en effet, il n'y a vraiment aucune solution, et à ce moment-là, ce sera à l'encodage de dire qu'ici, il y avait un caractère spécial, donc un caractère qu'on ne peut pas afficher, et de développer, par exemple, le mot, de proposer la version développée du mot pour l'édition. Au niveau du lignage, de même, il est respecté scrupuleusement, parce que les césures des mots semble être un détail vraiment non négligeable sur l'histoire de la composition d'une page, et de savoir comment est-ce qu'on césurait, à quel endroit, etc. S'il y a un tiré donc, de césure, bien sûr, on le saisit. Si le mot est césuré et qu'il n'y a pas de tiré, ce qui arrive souvent, on demande au transcripteur, cette fois-ci, d'ajouter de l'information. Donc, d'ajouter un caractère dollar qu'on ne trouvera jamais dans un texte de la Renaissance, qui permet en fait un traitement automatique de remplacer, de faire disparaître ensuite ce caractère dollar et de symboliser la césure autrement. Au niveau des mots et de leur graphie, même les graphies, alors je vais appeler fautives, parce que c'est très difficile de savoir ce qui peut être fautif ou non. Ou simplement un état de langue particulier. Donc déjà, c'est pour ça qu'on essaye même pas de les corriger au niveau transcription. Mais parfois, on a une coquille évidente, c'est-à-dire parfois des lettres inversées, un N pour un U. C'est souvent des cas comme ça. Donc là, on va transcrire vraiment avec la coquille. Et ce sera l'encodage qui viendra pointer sur ce mot et dire, voilà, on propose cette version corrigée du terme. Les caractères, par contre, non lisibles. Par exemple, sur une page, il peut y avoir de l'encre renversée, un caractère mal ancré, une page donc détériorée par le feu, par les souris, par tout ce que vous voulez. Là, le transcripteur, même si le mot peut être restitué via le sens de la phrase, on ne demande pas pareil au transcripteur de le faire à ce niveau-là. On marquera le caractère ou la partie du terme non lisible par ce petit losange là, et c'est ensuite dans l'édition qu'on rétablira le mot et qu'on l'encodera, si c'est possible. Les graphies agglutinées comme très grand ou désagglutinées comme long, longtemps écrit en deux mots, ne sont ni recollées ni décollées. On garde l'état de langue parce que c'est vraiment un état de langue de l'époque. Et on n'ajoute ni accent ni apostrophe au niveau de la transcription. C'est pareil, c'est une couche de régularisation, si on la souhaite, on fera manuellement au sein de l'encodage. Alors les entités nommées qui ne concernent pas forcément totalement la transcription, mais qui sont forcément reconnues par un transcripteur expert, et qui peuvent avoir tout un intérêt au niveau de l'analyse du texte ensuite. On va demander donc au transcripteur, parfois, s'il en a la possibilité, s'il a le temps, etc., de marquer ces entités nommées, afin, pareil, qu'elles soient ensuite prises en charge par l'encodage. Alors, c'est une méthode qui a tendance à s'effacer au profit de traitements automatisés, qu'on a mis en place dans le cadre d'un projet qui s'appelle Renom, et qui fait passer, en fait, certains traitements automatiques pour baliser directement ces noms propres. Donc, petit à petit, c'est vrai qu'on demandera de moins en moins, normalement, au transcripteur de marquer ces noms propres, ce qui fera un gain de temps non négligeable. Oui.
Sur l'exemple de François Ier, et qu'on a un caractère pour marquer le début du nom propre.
Alors oui, alors c'est parce que mon exemple, je vois ce que tu veux dire. Donc tu me dis mes premiers fait partie du nom et il n'est pas là. Alors normalement, on avait une norme qui disait que justement quand le terme était avec des espaces, on devait mettre un tiret bas, donc un underscore, pour lier le tout. C'est fait, pas fait. Disons que bon. De toute façon, les transcriptions, alors c'est, les transcriptions sont non seulement relues, mais surtout les encodages automatiques aussi. Donc c'est, après, c'est des choses qu'on rétablira. Et puis avec les cascades, bah, ce sera complètement reconnu automatiquement sans marquage. Donc voilà. C'est vrai que c'est le genre de choses qui peut, dès que tu fais une automatisation, ça peut poser problème. Les langues étrangères. Alors oui, il y a beaucoup de textes. Alors c'est même pas des textes bilingues, mais il va y avoir beaucoup de citations latines ou grecques dans les textes de la Renaissance. Alors bon, pour un lecteur qui n'est pas expert, ça devient compliqué. Pour les caractères latins, donc même les phrases latines, le transcripteur peut les transcrire sans problème. Ça se déchiffre pareil, même si on comprend rien, même si on n'est pas latiniste. Et on demande aussi au transcripteur de marquer ces passages en langue étrangère avec le signe euro, pareil, qui sera forcément introuvable comme caractère de la Renaissance. Donc on sait que c'est quelque chose qu'on a rajouté nous-mêmes pour encoder automatiquement dans la balise foreign qui marque un passage en langue étrangère. Pour le grec, c'est plus compliqué si on n'est pas helléniste. Donc là, en général, on se retrouve dans nos transcriptions avec des petits crochets qui marquent telle ou telle ligne en grec. Et c'est ensuite quelqu'un qui sait déchiffrer le grec et qui va s'amuser à insérer les caractères grecs à cet endroit. Donc là, j'arrive un peu au traitement qui tourne autour de cette transcription, parce qu'on voit... On a vraiment des étapes très manuelles, mais on a aussi certaines qui sont automatiques et même certaines étapes de transcription qui visent les traitements automatiques qui vont produire l'édition. On a sur nos textes, en gros, si on laisse de côté les entités nommées, deux transformations automatiques appliquées systématiquement. C'est le marquage des mots césurés par cette balise LB friend ifen, qui veut dire que en fait on a un saut de ligne entre une partie de mot, donc que le mot voilà est césuré. Ce qui permet donc, alors bien sûr, si le tiret est là, il sera conservé, mais il y aura quand même un line break friend ifen derrière. Par contre, si j'avais mon caractère dollar qui n'avait rien à faire dans mon texte, lui est supprimé. Et ce n'est plus que ma balise qui symbolise cette césure entre les deux parties du mot. Pour ce qui concerne les lettres ramistes et périvigraphes, donc la dissimulation de mon texte et la désabréviation, c'est pareil, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. À la main, c'était très 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 long de régulariser ces termes ou de les développer. Ça va pour une page, mais quand on a du Montaigne, c'est possible. Donc on a des feuilles de transformation qui permettent, en fait, par des règles appliquées sur les mots, d'automatiquement, par exemple, récupérer la forme dissimulée toujours avec un J à côté de la forme toujours avec un I. Et en plus d'avoir les balises autour qui symbolisent en fait cette forme originale et cette régularisation. Alors les caractères spéciaux, si j'y reviens quelques secondes pour je quitte un peu mes normes. Les caractères spéciaux, ou les caractères anciens plutôt, posent problème. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas été totalement recensés par Unicode. Donc on a en projet, c'est même pas... C'est seulement un projet, c'est une somme d'idées autour d'un inventaire de ces caractères anciens. Un projet qui s'appellerait Pika. Voilà, toujours des noms très mignons. Et donc l'idée, ce serait d'inventorier tous les caractères qu'on trouve à la Renaissance, puis après d'en extraire ceux qui ne sont pas dans Unicode et de les soumettre au consortium Unicode pour leur demander si leur semble utile de rajouter ces entités-là. En cas de refus, ce qui peut être probable pour beaucoup de caractères qui vont être jugés trop spécifiques à une certaine époque donnée, l'idée serait de proposer donc un codage alternatif normalisé, parce que si on fait un codage maison mais qui n'a pas de visée de normalisation, ce sera juste un codage de caractère ancien ou BVH et ça n'aura aucune utilité. Et enfin, donc c'est un peu ambitieux aussi, c'est de produire des polices pouvant afficher ces caractères anciens-là. Parce que c'est bien de pouvoir le coder, mais c'est encore mieux de pouvoir l'afficher en ligne. Et donc, il faudrait pouvoir produire des polices spécifiques. Là-dessus, je ne peux pas vous dire si un jour ça verra vraiment le jour, mais en tout cas, on est des fervents supporters de ce projet. Si je reviens, en fait, je boucle. Si on avait commencé par l'automatisation via les OCR, je vous ai dit, bah voilà, les OCR sur les textes de la Renaissance, ça ne fonctionne que peu, ou très mal. Alors c'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec le laboratoire informatique de Tours, l'équipe RFAI, qui développe deux logiciels qui fonctionnent un peu de pair, c'est-à-dire que d'un côté, on va voir le logiciel Agora, qui permet de structurer un document et d'en reconnaître en fait les formes distinctes. Alors ça peut être les lignes, ça peut être au niveau caractère, ça peut être au niveau mot, fonction des espaces, etc. Mais ça peut être aussi une façon d'extraire automatiquement tous les éléments ornementaux, parce que voilà, on peut analyser tout à fait leur position sur une page. Voilà, une lettrine, c'est souvent carré, ça a souvent telle taille, etc. Donc le logiciel peut les extraire automatiquement, pas seulement pour les caractères. Le logiciel Retro, lui, permet en fait de faire des groupes de caractères et ensuite de les identifier. Ce serait un début d'OCR. Ce n'est pas totalement un OCR, je vais expliquer pourquoi. Alors, dans le cadre du projet en fait, Paradit, qui a été financé par deux fois, je crois, par Google, il y a un projet donc, de clustering des caractères, donc de faire des groupes de caractères reconnus. Donc, les formes similaires sont regroupées. Et ensuite, on peut tout à fait étiqueter alors manuellement les groupes. C'est-à-dire qu'on va avoir un groupe de formes graphiques similaires. L'utilisateur va dire ensuite, ah bah oui, c'est un groupe de E, par exemple, et dire que ça correspond au caractère E, ou A, ou V, ou etc. Et puis ensuite, rentrer quelques paramètres supplémentaires si le logiciel a tendance de classer des C avec un E, parce qu'il y avait un E qui avait une boucle un peu effacée, donc ou alors, etc. Donc on va pouvoir définir tout un tas de règles de reconnaissance automatique. Pourquoi ce n'est pas totalement un OCR? C'est parce qu'il manque justement tout un ensemble correctement étiqueté pour pouvoir effectuer une reconnaissance automatique. C'est donc le projet en cours. L'idée, c'est qu'à terme, on puisse étiqueter, faire un corpus de formes étiquetées sources qui permettront la reconnaissance automatique et puis la transcription automatique à terme de ces textes anciens. Ce qui serait d'une grande aide, c'est vrai. Alors après ce tour d'horizon des normes et des solutions qu'on utilise actuellement, ce serait un peu simple de dire que les normes sont fixes, qu'on ne les touche plus et qu'on est content avec, parce que le corpus s'enrichit de jour en jour et qu'on a des éléments comme ceux que je vous montre ici, c'est-à-dire à la fois des documents mixtes qui vont mêler imprimés et manuscrits et des documents complètement manuscrits. On s'en doute bien, les caractères d'abréviation des manuscrits sont beaucoup plus variés. Ici, là, on a donc L'exemplaire de Bordeaux qui est annoté par la main de Montaigne, on va avoir tout un tas de signes un peu cabalistiques pour dire voilà, c'est une insertion, elle va là, etc. Donc ça pose de nouveaux, ce sont de nouveaux objets assez inédits et ça pose donc pas problème, enfin, ça pose des interrogations auxquelles il faut répondre dès le niveau de la transcription. C'est à la fois, enfin, c'est aussi cette diversité qui permet en fait d'avancer sur les normes concernant les textes imprimés ou pas et leurs éditions numériques. Mais la seule chose, c'est qu'il est très difficile, dès qu'on a des originalités comme celle-ci, de dire est-ce qu'on en fait une nouvelle norme ou est-ce qu'on fait un cas particulier. Et souvent, on fait beaucoup de cas particuliers. Quand on voit qu'on fait beaucoup de cas particuliers dans tout un tas d'ouvrages, ça devient très très problématique parce que on va avoir donc des normes par ouvrage. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est pour ça qu'il y a une révision assez fréquente, qui devrait d'ailleurs être encore plus fréquente, de nos normes qu'on soumet ensuite aux transcripteurs, qui peuvent d'ailleurs nous faire des retours pour dire bah, voilà, ça fonctionne pas, ou voilà, j'ai trouvé tel cas est très très hétérogène dans mon corpus et qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Donc actuellement, dans le corpus épistémon donc de nos textes transcrits, on a 50 textes transcrits et encodés en XMLTUI en ligne, un ensemble qui est le plus homogène possible, mais qui a sa part d'hétérogénéité tout simplement dû à l'historique du projet et parce que ce sont des textes qui ont été transcrits à une certaine époque et les normes ont donc évolué depuis. Donc bon, je finis juste en disant qu'on avance lentement mais sûrement vers quelque chose qui est un peu plus, qui est un maximum de cohérence, et toujours dans l'idée vraiment de proposer une multitude d'affichages, là on en a deux, mais d'essayer vraiment de coller dès la transcription à l'original, tout ensuite en proposant grâce à l'édition vraiment des formes multiples et variées pour ces ensembles d'ouvrages. Voilà. Oui. Oui. Des prestataires. Oui. Alors voilà. Les étapes, un peu les étapes au niveau transcription en général. Donc on a un transcripteur externe ou un transcripteur associé à l'équipe qui ne va pas être directement un membre de l'équipe qui va transcrire. Cette transcription va être lue très attentivement et en général donc corrigée directement au niveau de la transcription. Et ensuite, on va passer à l'encodage. Ce qui se passe, c'est que quand tu encodes, tu lis aussi en parallèle le texte, ça arrive, et tu trouves aussi des coquilles de transcription que tu régularises à ce niveau-là. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas corriger. Alors bon, c'est difficile, mais on fait le plus souvent possible, c'est-à-dire de vraiment aller toujours corriger ce qui est le texte brut. Donc le texte transcrit pour ensuite vraiment avoir une seule source. Parce que si tu corriges directement au niveau de l'encodage mais que tu répercutes pas les corrections au niveau de la transcription, la transcription on peut plus l'utiliser, c'est plus elle du tout le texte pivot. Bon, ce qui arrive, c'est que souvent on n'a pas ces cas-là, c'est qu'on va avoir justement des choses qui vont avoir été répercutées dans l'encodage mais pas dans la transcription. D'où l'intérêt, même au niveau de l'édition, de baliser tout ce qui est correction ou ajout de la part de l'encodeur pour ensuite nettoyer automatiquement ces balises et récupérer un état de texte qui soit en fait qui colle à une transcription de base. Voilà. Et donc on a vraiment une phase de relecture, parfois même deux relecteurs. Et puis en plus, forcément, une relecture de la transcription qui se fait assez automatiquement quand tu. Enfin, automatiquement. Qui se fait naturellement plutôt quand tu encodes. Voilà.
profil des transcripteurs.
Bon, si on fait appel à des sociétés de transcription qui vont être à l'autre bout du monde et qui sont donc des transcripteurs non francophones, qui suivent, enfin, on a l'habitude de travailler, j'arrive pas à retrouver le nom en fait, donc, mais bon, avec une entreprise en Inde qui connaît, enfin, qui est très familière avec nos normes de transcription, on travaille beaucoup avec eux, donc bon, voilà, y a un suivi qui est assez simple. Ce qui se passe, c'est que quand on a des ouvrages qui vont être un peu plus, qui vont avoir un peu plus de difficultés, c'est qu'on les fait tester. Leur fait tester une dizaine de pages, on récupère la transcription, on voit, nous, on annote tout ce qui peut être considéré comme une erreur de transcription, et on voit après, voilà, est-ce que c'est possible d'être fait par un transcripteur non francophone, ou est-ce qu'il faut absolument un transcripteur francophone pour éviter les coquilles de transcription. Voilà, mais ça peut être, on a aussi pas mal d'héritages de textes qui vont avoir été transcrits dans le cadre d'un autre projet par des chercheurs. Et là se pose le problème, c'est que les chercheurs en question n'avaient pas nos normes. Alors qu'est-ce qu'on rétablit? Est-ce qu'on a vraiment le temps de rétablir ce qu'on souhaite dans le cadre du projet? D'où une certaine hétérogénéité. Mais on préfère pas se priver de sources en disant, ben non, ça correspond pas à nos normes, on n'en veut pas. Bon, l'idée, c'est quand même au maximum de donner à lire ces ouvrages-là, donc d'où certaines transcriptions qui vont être régularisées et désabrégées sans encodage permettant la double lecture, puisque tout simplement la transcription était déjà dans cet état-là. Voilà.
Sur une question pour les S-cours. Si on peut les appeler comme
oui,
ça.
Oui, je les ai appelés.
Je me demandais dans quelle mesure, alors je ne suis pas du tout un spécialiste des écritures anciennes, mais dans quelle mesure c'était pas également des lettres oralistes.
Alors.
Et du coup, quel était le fondement scientifique de la distinction entre édition facsimilaire et édition quasi diplomatique?
Alors là, c'est très très discutable, justement, parce que c'est en effet, enfin, si ces échelons sont là, c'est pas un hasard, ça a forcément une valeur, et c'est vrai que c'est un choix conscient de dire on laisse, tant pis, là on a une perte d'information, elle est claire pour, comme je l'expliquais, parce que on voulait un gain de temps, parce que on veut une normalisation en fait quand même de ces caractères là mais si on était très très ambitieux et qu'on voulait transcrire très très minutieusement mais avoir qu'un texte parfait par an, c'est sûr qu'on ferait et ça, enfin, on transcrirait vraiment tous les caractères, on normaliserait seulement via l'encodage, donc les S courts entre guillemets apparaîtraient grâce à l'encodage et on n'aurait aucune perte quasiment d'informations, ce serait l'idéal. Mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose qu'on a laissé de côté dans le cadre du projet parce qu'on estimait en fait que c'était moins important, par exemple, que les brévigraphes ou les autres lettres oralistes. Ouais. C'était moins signifiant.
Oui, du coup, on se demande en quoi les autres lettres oralistes étaient vraiment signifiantes. Enfin, est-ce qu'il y a un vrai fondement linguistique, en gros, à l'étude de ces lettres oralistes, ou est-ce que le fait que U et V se soient mal alignés l'un pour l'autre, est-ce qu'il y a vraiment un fondement
ou... Le latin. Oui, il y a une vraie valeur du U, V, du I, du J au niveau linguistique. C'est vrai que c'est clairement des héritages latins. Et là, récupérer un corpus... index de toutes ces formes-là, ça peut être vraiment très intéressant.
Dans ce cas-là, il n'y a pas du tout ce même héritage pour la distinction entre S pour et S.
Visiblement. Oui.
Donc ça justifierait du coup la distinction.
Voilà.
Juste une chose, moi je travaille en anglais, en français, on a la même chose. Hein.
Mm-hmm. Oui, vous
avez et en plus, moi je parle sur des textes du 15e, le même scribe, en ligne d'intervalle, ou même dans la même phrase, parfois il y a un U, parfois il y a un V. Donc, est-ce que ça correspond à un son différent et une prononciation différente? C'est difficile à dire, puisque le même scribe, parfois va écrire V, parfois va écrire U, le même mot, dans la même langue, dans les deux phrases à la même. C'est vrai que c'est extrêmement difficile.
C'est, vu qu'on a le doute, donc pour le coup.
Ça, on se dit, on n'a pas le droit de faire disparaître ça. Il faut le conserver quand même. Nous, c'est notre point de vue.
Bah, c'est pour ça qu'on essaye de le faire au maximum. Parce qu'on ne sait pas quelles analyses futures pourront révéler voilà, telle ou telle chose. Dès lors que le corpus se sera vraiment agrandi, couvrira une période large, voilà, je pense qu'on verra apparaître certains usages qui seront peut-être plus transparents qu'actuellement.
Mais j'aurais une autre question, c'est concernant l'usage des espaces. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont agglutinés, voilà, par exemple très grand, très beau, etc. Et c'est vraiment un usage linguistique de cette époque-là. Mais il y a d'autres fois, on voit que l'usage des espaces est relativement chaotique, et en tout cas qu'il obéit à des lois de composition typographique, qui ne sont et non pas à des lois de composition en français de cette époque-là. En apparence en tout cas. Et du coup, je me demandais par rapport à mon œuvre en transcription, comment est-ce qu'on arrive à faire la distinction des fois entre des mots qui sont agglutinés et qui ne devraient pas l'être selon parce qu'on retrouve de l'île.
Eh bien, c'est justement par comparaison au sein du même ouvrage où à un moment, on va dire que ça va être clair que le mot est toujours agglutiné, puis parfois, d'un coup, on a un doute. C'est par similitude, on va se dire, bon, ça, c'est sûr, il est agglutiné.
Vous avez fait des règles
voilà.
Claires,
mais là, on n'a pas. C'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite vraiment de revenir parfois sur la transcription et de dire, clairement, on a désagglutiné quelque chose qu'il ne fallait pas, ou inversement. Parfois, on compare même au travers d'anciennes transcriptions d'un même auteur, en se disant tiens, les mots étaient bien scindés, donc c'est certainement que là l'espace n'a pas été mis par le compositeur par manque de place. Donc, voilà, là c'est vrai que c'est pour ça que c'est une norme dite comme ça, on désagglutine pas ou on ne recolle pas les termes, mais c'est plutôt de l'interprétation au moment. Ce qu'un transcripteur peut difficilement, quelqu'un qui va transcrire vraiment sans se poser de questions peut difficilement faire ça. C'est d'où la relecture par quelqu'un qui, c'est pas seulement pour les coquilles de transcription, ça va être aussi pour les formes qui par exemple vont avoir été interprétées d'une telle manière, d'une certaine façon, alors que c'était pas du tout justifié et que quelqu'un qui est spécialiste ou qui est accoutumé à la langue de la Renaissance va tout de suite voir. Voilà. C'est pas évident, ce genre de choix.